Monsieur, dames, bonsoir. Il vient d'être 17h et vous nous suivez en direct des 47 radios partenaires du studio Kalangou. C'est l'heure de votre journal en français. À la présentation, je suis Rokhaya Abdrahmane. À la une, après 2 ans de restriction dans les lieux de culte à cause de la crise sanitaire de la COVID-19, les autorités saoudiennes ont levé ce dimanche 17 octobre la distanciation sociale dans la grande mosquée de la Mecque. Une décision bien accueillie par l'association nigérienne de pèlerinage. L'équipe nationale féminine de football du Niger, les Gazelles, affronte en ce moment l'équipe ivoirienne au stade général Sène Koutché de Niamey. Cela entre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Maroc 2022. En partie magazine, on parle de la labellisation de l'oignon violet de Galmi. Les autorités saoudiennes ont levé la distanciation sociale contre la COVID-19 dans la grande mosquée de la Mecque le dimanche 17 octobre, et ce après presque 2 ans de restrictions pour des raisons sanitaires. Une lueur d'espoir pour les futurs pèlerins, estime El Hadj Moumouni Amadou, le président de l'association nigérienne des agences de pèlerinage et de la Umrah. Il est au micro de Maman Ada.
Les autorités saoudiennes ont pris vraiment ces décisions vraiment courageuses. Il a annoncé la fin de restriction au sein de 2 mosquées de la Mecque et de Médine, à savoir la distanciation entre les pèlerins et le port de masque, puis l'installation de l'eau des Zamzam et la restauration de l'utilisation des tapis dans les 2 mosquées. Puis la fin des délais d'obtention des 2 visas Umrah pour Rawda à Médine aussi. Avant, il faut 1 mois avant de reprendre la visite de Rawda. Et maintenant, à tout moment, la personne peut aller effectuer sa visite là-bas, dans la mosquée de Médine, à Rawda.
Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2022, l'équipe de football féminine du Niger affronte présentement celle de la Côte d'Ivoire au stade général Sène Koutché de Niamey. Pour la commission compétition de la Fédération nigérienne de football, si l'équipe des Gazelles du Niger est en construction, celle de la Côte d'Ivoire est, elle, composée de joueuses professionnelles. Laouli Garba, membre de la commission compétition, au micro de Habib Garba.
Nous avons l'atout de notre terrain, l'atout de notre public, même si c'est un nombre limité, comme le match va se jouer à huis clos. C'est-à-dire que les joueuses, elles vont jouer vraiment avec l'esprit très ouvert, elles vont jouer librement, elles vont faire le tout pour le tout ici, n'est-ce pas, pour pouvoir tenir tête à l'équipe ivoirienne. Mais il y a un écart entre les deux, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. L'équipe de Côte d'Ivoire, elle est constituée de plusieurs professionnels qui évoluent en Europe. C'est pas une excuse. Le ballon roule pour tout le monde. On a vu l'exemple de David et Goliath. Donc c'est dire que rien n'est impossible. On ne peut pas prédire et que d'emblée, voilà, celui qui va gagner.
Le film documentaire Zender de la réalisatrice nigérienne Aisha Maki a été projeté le lundi 18 octobre au Festival panafricain de cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Ce film fait partie des 15 retenus en catégorie documentaire. Les détails avec Aisha Maki, la réalisatrice.
Le public a beaucoup apprécié les films. En témoigne la salle qui était pleine à craquer. Beaucoup de journalistes qui sont venus le regarder et tout l'engouement qui a suscité les débats autour. Il y avait une forte mobilisation de la communauté nigérienne qui habite ici à Ouagadougou, sans compter aussi la délégation en fait officielle qui est composée d'une 30aine de personnes qui étaient là présentes aussi ces jours-là. Donc c'est un réel plaisir de représenter le Niger, de voir les drapeaux tricolores flotter à côté d'autres nations. Dans ma catégorie qui est les documentaires, nous sommes 15 pays à compétir. Donc que l'art triomphe, je dirais, et que l'Afrique gagne. Et en dehors de cela aussi, nous sommes là et pour participer à des formations que nous donnons à des jeunes. Aussi participer à des panels, animer aussi des conférences, tout ça rentrant dans le cadre de l'industrie cinématographique en Afrique.
Les candidats admissibles au concours des douanes de 2019 qui a été annulé par leur ministère de tutelle, le ministère des Finances, étaient en sitting ce matin devant le dit bâtiment administratif à Niamey. Ils exigent du ministère la signature de leurs arrêtés pour intégrer la formation militaire. Suivez les explications d'Issoufou Ibrahim, un des porte-parole du collectif des admissibles au concours au micro du studio Kalangou.
Le ministre de Finances d'antan avait annulé notre admission dans le cadre de la douane, ce que nous avons porté au niveau de la plus haute juridiction en matière administrative, notamment le Conseil d'État. La décision, au fond, a été rendue à travers un arrêt du 14 juillet 2021, où nous avons obtenu gain de cause. Le Conseil d'État a reconnu que nous avions des droits acquis et qu'on ne peut plus revenir par rapport à ce concours. Alors, après 3 mois, 6 jours, nous attendons toujours, c'est le silence total au niveau du ministère des Finances. Nous avons adressé 2 correspondances au ministre des Finances à la date où je vous parle. Aucun signe de vie n'a été donné par l'administration des Finances. Ce n'est que ce matin que le SIGA du ministère des Finances nous a fait cas d'une demande d'avis qu'ils ont adressée au niveau du Conseil d'État, ce que nous ne comprenons pas. Nous voulons attirer l'attention du ministre de prendre toutes les mesures nécessaires afin de nous mettre dans nos droits, en signant nos arrêtés définitifs et en nous envoyant en formation militaire.
En vue de renforcer la collaboration entre forces de défense et de sécurité et les populations pour la sécurité dans les communautés, un programme dénommé « Programme de dialogue sur la justice et la sécurité » a été mis en œuvre en 2017 au Niger, avec comme site pilote le 5e arrondissement de Niamey. Il s'agit d'un projet de l'Institut des États-Unis pour la paix. Plus de précisions avec le représentant pays de l'institution Nouredine Harouna Abdou au micro d'Adama Dawaki.
On est parti du constat, après plusieurs études et beaucoup d'experts l'ont confirmé, qu'aujourd'hui, la question de la sécurité au vu de la complexité et de la nouveauté de son genre ne doit plus être exclusivement gérée par les porteurs de tennis, ça doit être une affaire de tous. Et donc, du coup, les mêmes constats aussi ont, pour le Niger particulièrement, fait ressortir une certaine méfiance et un manque de collaboration entre les communautés de manière assez générale et les FDS. Et donc, nous avons conduit un certain nombre d'études diagnostiques qui nous ont permis de faire ressortir tous les points qui constituent les obstacles à cette collaboration-là. Et donc, du coup, nous sommes partis expérimenter des approches au niveau de l'arrondissement communal de Niamey 5 pour essayer de voir si on met cette approche de dialogue sur la justice et la sécurité, est-ce que les gens vont arriver à apprendre à travailler ensemble. Et donc, ça a très bien marché au niveau de l'arrondissement communal de Niamey 5. Et donc, le ministère de l'Intérieur a voulu faire un exemple au plan national. Et donc, il y a eu des réflexions. Et donc, l'idée qui a été trouvée, c'est de faire une stratégie national.
Le collectif La Voix des femmes du Sahel regroupe les femmes de Tillabéri et de la diaspora. Il œuvre pour la promotion de la paix dans les zones affectées par les conflits armés et l'insécurité. Pour le retour de la quiétude dans la région de Tillabéri, le collectif envisage d'observer une journée de jeûne pour le retour de la paix, explique Madame Abdoulaye Aissata, présidente de l'organisation. On l'écoute.
Nous avons fait plusieurs activités, en l'occurrence la principale était le lancement des activités qui a été sanctionné par la déclaration des femmes du collectif au niveau du gouvernorat de Tillabéri. Et notre deuxième action, nous avons pensé que concrètement, ce que nous pouvons faire, c'est de demander à Dieu effectivement de nous aider dans cette question cruciale qui perdure, qui est la question d'insécurité. À cet effet, nous avons lancé depuis 3 jours de faire un jeûne collectif pour que l'ensemble des femmes du Niger participent en implorant Dieu pour que la paix réside dans notre pays. Demain jeudi, Inch'Allah, l'ensemble des groupes touchés, en tout cas, ont répondu. Toutes les femmes qui se sont engagées vont faire le jeûne, Inch'Allah. Nous avons envoyé un peu partout avec l'aide de la diaspora. Nous sommes en train de communiquer pour toucher le maximum de femmes.
Propos recueillis par Fika Taher. La saison des pluies et sa fin sont des périodes de pic du paludisme au Niger. Dans la ville de Zender, le centre de santé intégré Stade a enregistré moins de cas cette année comparativement à l'année dernière à la même période selon le major du centre. Aussi, elle souligne un recul de la fréquentation du centre par les enfants. Madame Ali Yahaha, major du CSI Stade de Zender au micro de Mariama Nuhu.
C'est la période des pics, période où on enregistre beaucoup de cas de palu. Mais Dieu merci, cette année, la situation est stable. Contrairement à l'année passée, par exemple cette année, en ce mois de septembre, à la première semaine, on a enregistré 270 cas. L'année passée, à la même période, on a enregistré 800 cas. Et c'est grâce à la prévention du palu chez les enfants et l'utilisation des moustiquaires imprégnés par les femmes. Je dirais Dieu merci. C'est vrai, on enregistre encore des cas des enfants atteints de paludisme, mais les adultes sont les plus touchés. À peine on enregistre 4 à 5 90% des enfants touchés par le paludisme. Désormais, nous avons fini avec la lutte contre le paludisme. On va entamer la lutte contre le rhume. Les femmes doivent bien protéger leurs enfants contre les froids qui s'annoncent.
À Niamey, on constate sur les marchés une disponibilité des criquets. Cette année, ces insectes prisés par la population nigérienne se sont beaucoup développés à l'ouest du pays. C'est ce qui explique cette présence sur les marchés selon un vendeur installé au marché Katako de Niamey. Cependant, les prix pourraient augmenter dans les prochaines semaines, a précisé Abdelaziz Oumarou au micro d'Assoumane Boubacar.
Comme c'est la période, nous vendons le sac de criquet à 40 000 francs CFA. C'est le dernier prix. Dans quelques semaines, les prix vont augmenter. Ils peuvent aller de 60 000 jusqu'à 80 000 francs CFA. La mesure est à 900 francs CFA actuellement, mais certains la vendent jusqu'à 1 000 francs. Tout le monde achète, hommes comme femmes. Certains sont des grossistes et d'autres des détaillants. L'année passée, il y a eu beaucoup de criquets à Maradi. Mais cette année, on en trouve beaucoup plus à l'ouest du pays. Il y a trois variétés de criquets comestibles. Celle-là, nous l'appelons Kawada, en Hausa. Et Karanya en Zarma, c'est la plus prisée. La deuxième est appelée Gozoro en Hausa. Et la troisième est de couleur noire.
Et puis la partie magazine de cette édition. Le marché de l'oignon pèse dans l'économie nigérienne. Le pays a obtenu il y a quelques années la labellisation du violet de Galmi, mais il lui manque une usine de transformation pour commercialiser cette variété d'oignon. Ousmane Kadri, le président de l'Observatoire régional de l'oignon en Afrique de l'Ouest et du Centre, se dit confiant dans l'indication géographique à venir. Il est au micro de Maman Ada.
Comment mobiliser les fonds pour monter une industrie?
Il va falloir que les gens s'y mettent pour constituer un fonds. C'est ce fonds-là que nous sommes en train de voir comment il faut le constituer. Quand nous aurons ce plan de business en main, et pour avoir ce plan de business, il va falloir investir 50 millions. C'est ce montant que nous n'avons pas pu collecter. Nous nous sommes rendus à la rencontre africaine avec une délégation que j'ai conduite moi-même. À l'issue de cette rencontre, la délégation du Sénégal s'est donné porteur du plan. Et dès leur retour, le gouvernement a accepté de verser les 50 millions. À l'heure actuelle où je te parle, la première usine est implantée à Dakar, au Sénégal. Pour la deuxième usine, nous sommes en train de nous battre pour qu'elle soit installée au Niger. Mais il y a le Nigeria aussi qui s'est donné porteur.
Donc, il vous faut l'appui de l'État. Si toutefois
le gouvernement ne s'investit pas, nous souhaiterions que ce soit fait de la même façon que Feu Tanja Mamadou l'a fait. Il est connu de tous. Quand on a voulu retirer l'agrégation de la marque de l'oignon violet de Galmi, Feu Tanja s'est battu corps et âme. Dieu nous a aidés et nous avons pu garder la marque. Aujourd'hui, l'oignon violet de Galmi est une propriété exclusive du Niger. Certes, c'est pour le Niger, mais malheureusement, nous n'arrivons pas à l'exploiter.
Comment protéger le label de violet de Galmi?
Parce qu'il a été précisé que si toutefois nous nous hasardons à introduire de l'oignon qui ne répond pas à la marque, eh bien le label nous sera retiré. Et dès qu'il est retiré, il sera remis au Sénégal. Voilà pourquoi nous investissons avec détermination. Heureusement, maintenant le gouvernement apporte son appui de façon ferme. Mais obligatoirement aussi, nous devons procéder à la formation des producteurs. Et cela, c'est le rôle des agents de l'agriculture qui doivent s'impliquer. Avant-hier, nous avons reçu l'indication géographique. Il y a près de 20 ans que nous sommes à la recherche de ce document. Si nous arrivons à suivre correctement l'application de celui-ci, peut-être que l'oignon va avoir de beaux jours. Tout le monde sait, quand on parle de l'oignon de Galmi, c'est au Niger. Nous voulons seulement l'accompagnement de l'État et des partenaires. Et également les ministres, les directeurs concernés, les agents de l'agriculture, etc. etc. S'ils nous accompagnent, la filière oignon va se développer, Inch'Allah. Il y a 10 ans en arrière que les choses s'amenuisent. Et après 20 ans d'attente de ce fameux document d'identification géographique, il a fallu avant-hier pour l'avoir. Nous remercions tous les acteurs et que Dieu nous aide pour la gestion de l'oignon.
C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie d'Alamine Ouachar pour le journal Antamachèque.